Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Benjamin Blanchard et par Adrien Renoir, émission préenregistrée les 17 et 18 février 2023, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 18 février de 18h à 21h, et réalisée par Aline, par Jean-Edouard et par Benoît. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016. Paris.
Bonsoir chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Libre Journal de la plus grande France que j'ai l'honneur de diriger, et j'ai l'honneur aussi surtout de recevoir la bande de chroniqueurs habituels. J'ai en face de moi Xavier Aimant.
Bonsoir à tous.
Jean Hernis.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Marc Hainaut.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Qui nous rejoint ce soir, mais qui m'a fait l'honneur de m'inviter de nombreuses fois lorsqu'il était patron d'un Libre Journal et qu'il faisait régulièrement un petit commentaire de l'actualité avec une bande de journalistes aguerris.
Dont vous faisiez partie, effectivement.
Merci beaucoup, Marc. Et j'ai aussi l'honneur de recevoir François Devoyer qui se glisse doucement dans le studio. Il était en retard pour raisons familiales et c'est heureux. Nous sommes ravis de l'accueillir. Donc ce soir, nous avons décidé de parler d'une ville qui nous est tous chère, enfin je l'espère. On dit que c'est la plus belle ville du monde, je veux parler de Paris. Alors Paris est-elle encore la plus belle ville du monde ? Nous allons nous pencher sur la question, d'autant plus que nous avons des spécialistes de Paris autour de cette table. Jean Hernis et Xavier Aimant travaillent tous les deux pour le média en ligne Paris Vox. Ils animent aussi régulièrement une émission de radio sur l'antenne de Méridien Zéro. Et ils ont parlé de ce sujet, donc ils connaissent bien l'état actuel de notre chère capitale. Et j'ai envie de commencer tout de suite avec Jean Hernis. Est-ce qu'on peut dire que Paris n'est plus la plus belle ville du monde ?
Malheureusement, oui. Et je pense que ce qui atteste le mieux de cet état de fait, c'est quand même qu'en 10 ans, Paris a perdu 123 000 habitants. Et je pense que la désertion des habitants, dont se félicite d'ailleurs le maire de Paris, Anne Hidalgo, est la preuve éclatante que même les Parisiens ne supportent plus Paris et ne peuvent plus le supporter d'un point de vue économique, sécuritaire, écologique, même la propreté. Rien ne va à Paris.
Nous allons revenir sur tous ces aspects-là. Oui, le maire de Paris, Anne Hidalgo, parle de dédensification. C'est un très joli mot pour dire que les habitants fuient la capitale. Moi, je trouve ça pas désagréable parce que j'ai toujours eu horreur de la foule, mais c'est un avis complètement personnel. Nous parlions du maire de Paris avant de parler de l'état de Paris dont on a quand même un aperçu régulier, notamment sur les médias sociaux, sur ce qu'on appelle le saccage Paris, l'état de délabrement, les rats, la pollution, le coût de la ville, la saleté. Peut-être faire d'abord un tour sur la politique de la ville d'Anne Hidalgo. Xavier Aimant, vous avez envie de caractériser cette politique ?
Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, si je devais la caractériser par un mot, ce serait la déconnexion. La déconnexion totale de la politique de la mairie de Paris avec les préoccupations et les intérêts de la population. C'est-à-dire qu'on est dans une politique purement idéologique, avec une volonté d'imposer un agenda écolo, bobo, désincarné, à toute force, alors qu'on laisse de côté les problèmes, on dirait quotidiens, les problèmes concrets des Parisiens. Il y a de très nombreux exemples. Il y en a qui sont particulièrement frappants, il y en a, notamment du côté de Porte de la Chapelle. Alors pour les gens qui ne sont pas parisiens, Porte de la Chapelle, ce n'est pas le quartier le plus sympathique de Paris.
C'est un joli nom.
C'est devenu une zone de non-droit absolu. C'est là où on trouve la désormais fameuse colline du crack, donc où se mélange des toxicomanes, des migrants clandestins et toxicomanes, des dealers, etc. Et face à cette situation, il y a quelques années, la mairie a eu une excellente idée pour régler ces problèmes graves, hein, parce qu'il y a quand même de l'insécurité, des agressions permanentes, et on sait qu'un toxicomane en manque, c'est prêt à peu près à tout pour avoir sa dose. Alors face à ça, quelle est la réaction d'une mairie saine et intelligente ? Elle dit, on va créer un parcours plantée où les gens pourront se promener agréablement avec des...
Parcours sonore et arboricole.
Un chemin de verdure
qui va comment dire, apaiser la situation et régler évidemment tous ces problèmes. Donc on investit massivement dans ce projet. Je crois que c'était
9 millions
en tout d'euros, donc d'argent des contribuables, pour faire cette promenade plantée qui vient évidemment aujourd'hui d'être rasée à coups de bulldozer parce qu'elle a été transformée en une espèce de zone encore plus de non-droits où les arbres étaient découpés, utilisés pour faire des feux dans les campements de migrants. Les pots de fleurs étaient remplis de seringues de toxicomanes, etc., etc. Et donc cet investissement totalement idéologique, complètement fumeux, a coûté 9 millions d'euros et n'a évidemment rien réglé à la situation, au contraire, qui est empiré. C'est pour montrer cet exemple-là, parmi d'autres, on en parlera sans doute, du décalage complet entre les lubies idéologiques de la mairie de Paris et les réalités quotidiennes vécues par les Parisiens.
Juste oui, Jean-Yannis. Une petite précision un peu ironique, c'est qu'en plus, cette promenade prenait place sur des terrains auparavant qui étaient dédiés à la jeunesse, donc il y avait des terrains un petit peu de foot, de basket, alors qui avaient certes leurs défauts, mais au moins un grand intérêt, c'est-à-dire que les jeunes du coin s'y retrouvaient pour jouer. Ce qui n'avait même plus après, parce que cette place avait été prise après par les migrants.
Après, ça n'a pas perdu pour tout le monde, puisque la mairie réfléchit à un nouveau projet qui serait un centre d'accueil pour migrants.
Voilà, les jeunes peuvent se retrouver autour du calumet et faire des feux de camp comme les scouts.
En tout cas, un parcours planté pour se faire planter quelque part. Non, en plus, vous vous adressez à la mauvaise personne, puisque moi, j'ai fui Paris en réalité il y a quelques années. Je me suis installé à une quarantaine de kilomètres de la capitale pour les raisons qu'on a évoquées, aussi pour des raisons purement économiques, puisque Paris, on le rappelle, a une qualité de vie qui se détériore de plus en plus et il n'a jamais été aussi cher de vivre à Paris. Donc, c'est tout le paradoxe de la gestion d'Anne Hidalgo, de Bertrand Delanoë avant elle, etc. Et Paris s'enlaidit chaque jour davantage, Paris s'enfonce davantage chaque jour dans l'insécurité, et en plus, vivre à Paris est devenu un privilège pour des gens en ayant clairement les moyens.
Alors, je pense qu'on va, pouvoir taper allègrement sur Anne Hidalgo, la pauvre. Mais est-ce que vous parliez des loyers, du coût de la vie, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Anne Hidalgo de l'augmentation des loyers parisiens?
Les loyers parisiens, il n'y a pas pour grand chose, mais le problème, c'est quand on paye un loyer onéreux, c'est parce qu'on a un cadre de vie sympathique. Je veux dire, on fait des efforts financiers pour améliorer son cadre de vie, sa qualité de vie ou que sais-je. Le problème, c'est que celle-ci ne fait que se détériorer. Je pense que la fuite des Parisiens est avant tout due à la détérioration de ce cadre de vie et pas effectivement au sacrifice financier que cela comporte, puisque le sacrifice financier, à l'heure d'aujourd'hui, pour beaucoup, n'en vaut plus la chandelle. C'est un jeu qui n'en vaut plus la chandelle, pardon.
François Devoyer, pour vous, c'est la détérioration du cadre de vie qui est un problème à Paris, ou c'est plutôt les lubies écolo, dingo, gaucho que dénonce Xavier Aymant en partie?
Il faut distinguer ce qui relève proprement d'Anne Hidalgo et ce qui relève de phénomènes structurels qu'on retrouve à peu près partout au niveau européen, dans les grandes capitales, qui malheureusement reprend finalement le modèle américain. Et
en revanche, je crois qu'on est la seule métropole qui a tendance à se vider, Paris.
Oui, alors, on était aussi la métropole la plus dense de très loin. Et moi, je suis, comme vous, Adrien, je ne suis pas franchement angoissé à l'idée que Paris lâche quelques habitants de l'autre côté du périphérique. Ce qui m'inquiète plus, c'est qui s'en va
et qui arrive.
Et qui reste et qui arrive. Paris est devenue une ville de vieux, riches et de jeunes immigrés. Ceux qui partent, ce sont les familles.
On en parlera.
Les familles de la classe moyenne.
Donc
ça, c'est très gênant. Non, moi d'abord, j'aime énormément Anne Hidalgo. Elle me plaît beaucoup. C'est le châtiment des Parisiens qui ont voté pour elle. Donc pour une fois qu'il y a un peu de justice dans ce monde, c'est-à-dire que les gens ont enfin payé cette élection, ils la payent au prix fort. Le problème, c'est que le prix n'est même pas assez fort pour ceux qui peuvent se permettre de rester à Paris. Les premiers à avoir subi les délires d'Anne Hidalgo sont effectivement repartis, comme certains à cette table. Mais, comme je le disais, le problème dépasse, hélas, Anne Hidalgo. Je vous donne un exemple précis sur le changement de population à Paris. Là, je recherche une place en crèche. Eh bien, l'an dernier, dans le 16e arrondissement de Paris, qui n'est pas géré par la gauche, eh bien, il y avait seulement 10% des demandes qui étaient satisfaites. 10%. Cette année, glorieusement, ils sont montés à 30%. Donc c'est absolument dérisoire, c'est une ville qui n'est effectivement pas faite pour les familles. Je rappelle qu'on a le taux de fécondité à Paris le plus bas de toutes les autres métropoles, vraiment de manière très importantes. Il y a un autre phénomène, c'est que ce n'est plus qu'une ville de cadres. On nous parle sans arrêt de mixité sociale. En réalité, la population de cadres est passée en 1988 de 33% de la population parisienne à aujourd'hui 79%. C'est-à-dire qu'on nous parle toujours de mixité, mais en réalité, en dehors de faire venir quelques...
Du logement social et des cadres.
C'est ça, tout à fait. Il n'y a plus que cela. Puis moi, un dernier point qui m'exaspère et qui dépasse, hélas, là encore, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo est vendue au bâtiment, on le sait, hein, ça mériterait peut-être une émission tout entière. C'est vraiment très grave ce qu'elle avait souhaité faire, en particulier sur l'avenue Foch. Je rappelle tout de même les serres d'Auteuil, la destruction, Picpus... on a supprimé également des arbres, il y a également la pagode, le cinéma La Pagode, dont le petit jardin a été massacré. Donc on voit bien que les écolos ne pratiquent en rien le programme qu'ils prônent. Mais effectivement, là encore, on dépasse le phénomène d'Algo. On voit dans toutes les villes de France des petits arbustes remplacer les arbres. On va nous expliquer que c'est beaucoup plus vert, alors qu'en réalité, pour des raisons purement financières et matérielles, eh bien, on refuse de planter des arbres dignes de ce nom. Ça paraît anecdotique, mais ça fait partie de tout ce qui participe à une qualité de vie, avec les bancs publics, avec tous ces mobiliers urbains, les kiosques à journaux tels qu'on les a connus. En fait, on a aussi largement un phénomène, malheureusement, de massification, d'enlaidissement, tout pour le profit et pour une vie qui ressemble finalement à Paris à celle de toutes les capitales au monde. Et c'est ça le plus triste, c'est que Paris ne se distingue plus en rien, si ce n'est par la saleté, des autres villes du monde entier.
Oui, je constate à peu près la même chose quand j'ai la chance de me balader dans les rues de Paris. Avant de reparler de ce tableau un peu noir qu'on a évoqué, je voulais revenir un peu sur la politique menée par Anne Hidalgo. On sait qu'on parlait des problématiques financières liées à l'immobilier. On sait qu'elle est vendue au bâtiment. En revanche, en retour, elle arrose aussi ses électeurs dont vous parliez. Moi, je serais curieux quand même de connaître un électeur d'Anne Hidalgo parce que j'en ai jamais rencontré.
Aussi, les agents de la ville de Paris. Qui sont plusieurs dizaines de milliers et qui ont globalement des avantages absolument incroyables.
Enfin, vous côtoyez des agents de la ville de Paris ?
Mais écoutez, oui, parce que j'ai comme François Devoyer, en tout cas, j'ai rencontré des crèches municipales et on a vu un peu des qualités, les conditions de travail. Elles sont, alors ça reste des métiers difficiles, bien évidemment. Éboueur à Paris, ça reste un métier difficile, tout ce qu'on veut. Mais ce sont des gens qui bénéficient d'avantages certains par rapport à d'autres villes de France. La ville de Paris est connue pour faire un emploi massif et abusif du nombre d'agents qui ont deux fois plus de congés payés que les autres, qui travaillent 32 heures ou 30 heures par semaine et qui globalement, oui, la vie est assez simple. Et je pense que déjà, vous avez cette base électorale-là, vous avez comme tout bon édile du Parti Socialiste, vous avez évidemment le soutien des profs, vous avez en plus Anne Hidalgo a réussi à faire une synthèse de la gauche au sein de sa mairie, ce qui fait qu'elle est soutenue par Europe Écologie Les Verts, par le Parti Communiste, donc en fait, en réalité, Anne Hidalgo est parvenue par le... grâce notamment aussi à l'action de Bertrand Delanoë avant elle, en tout cas, est parvenu à la fois faire l'union de la gauche et à la fois se faire l'agent des différents lobbies du bâtiment. Donc elle a réussi une synthèse totalement improbable de mettre par exemple David Béliard en charge de l'urbanisation et de la végétalisation, et David Béliard, cadre écologique et un promoteur du béton. Enfin, c'est quelque chose, c'est assez fascinant en fait sur le plan politique ce qu'elle a réussi à faire, Anne Hidalgo.
Jean-Yannis.
Je mettrai un petit bémol, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Marc, notamment sur les fonctionnaires dans Paris. Moi, je pense que c'est surtout une caste de gens subventionnés.
Mais je voulais justement parler de ces aspects-là.
Toutes ces associations. Au niveau des éboueurs, effectivement, vous avez raison, Marc, les éboueurs avaient de bonnes conditions de travail, mais qui se perdent de plus en plus parce que la mairie a privatisé en grande partie la gestion des ordures municipales. Et ce qui cause, selon moi, en grande partie la raison de la saleté de Paris. Auparavant, nous avions des éboueurs qui vivaient et travaillaient dans leur arrondissement. Donc quand vous vivez et travaillez dans votre arrondissement, vous êtes attaché à ce qui reste propre. Dorénavant, on a des éboueurs qui vivent en banlieue, proche banlieue bien souvent, pour des entreprises privées et donc des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce soit plus ou moins propre. Auparavant, il y avait une grande permissivité, à Paris, c'est-à-dire qu'on laissait les gens faire, on avait le fini parti, c'est-à-dire que les gens finissaient leur travail et partaient après. Donc on avait des gens qui faisaient parfois 28, 29 heures de travail, mais qui étaient un travail effectif. La mairie a voulu mettre un peu d'ordre là-dedans, un peu, on s'entend, et a chamboulé totalement l'organisation de
travail.
Des rondes de travail, des éboueurs, qui était auparavant un rôle dévolu aux mairies d'arrondissement. Dorénavant, tout est géré par la mairie, c'est-à-dire par la mairie de Paris. Donc, ce chamboulement fait que auparavant, on avait des arrondissements de droite plutôt propres et des arrondissements de gauche qui étaient propres dans les beaux quartiers et moins propres dans les quartiers, dirons-nous, populaires.
Ce n'est plus sur Radio Courtoisie, la radio de toutes les droites.
Et on a dorénavant une saleté qui s'étend un peu partout dans Paris, qui s'explique donc d'une part par un moins d'engagement par les éboueurs, des sociétés privées qui sont dans une cherche de la rentabilité à tout prix et donc qui prennent des contrats mais qui veulent être rentables. Les éboueurs municipaux, si vous aviez une poubelle qui dépassait de votre conteneur, ramassez le conteneur. Dorénavant, si la poubelle n'est pas dans le conteneur, ce n'est pas dans le conteneur, on ne ramasse pas. Donc vous avez un sac poubelle qui va rester et un autre service municipal qui viendra prendre ce sac ou mettre une amende si on arrive à retrouver à qui est ce sac. Donc il y a quand même des choses qui explique cette saleté. Et en fait, en ayant voulu être plus sévère avec les éboueurs, en leur imposant des 35 heures, ben en fait, en réalité, on n'a pas réussi à imposer 35 heures. Et en plus, on a dégoûté des gens qui maintenant n'ont plus aucune conscience dans leur travail pour les gens qui restent, et ils sont de moins en moins nombreux, à être fonctionnaires de la mairie. C'est-à-dire que la plupart des gens, maintenant, dépendent de sociétés privées qui ont bien peu de responsabilités par rapport à l'état de la ville, quoi.
Non, mais je comprends cet aspect important des éboueurs, des fonctionnaires de la ville de Paris, mais je pense que ça ne fait pas toute la sociologie électorale. Et sur les points de vue financiers qui tiennent Hidalgo et qui font qu'elle est élue, je pense que c'est notamment les subventions. C'est le fait de donner de l'argent à de potentiels électeurs et c'est d'arroser largement financièrement certaines causes. Donc peut-être que Xavier Aymon veut nous en parler, mais je pense à la cause LGBT ou aux associations de migrants, de clandestins. Enfin, je crois qu'il y a pas mal de...
Il y a une forme de clientélisme indiscutable dans la politique de subvention de la mairie de Paris. Il y a un certain nombre d'exemples assez flagrants. Évidemment, la cause LGBT est très bien nourrie par Anne Hidalgo. On peut penser notamment au projet des archives LGBT qui vont être bientôt ouvertes à Paris. Tout le monde comprendra l'urgence de cette création. Encore une fois, c'est un bâtiment de la mairie de Paris mis à disposition.
Ancienne mairie d'arrondissement. Hein. On ne parle pas d'un petit bâtiment. Ce n'est pas une cave dans le 19e arrondissement.
Plusieurs centaines de milliers d'euros de subventions pour pouvoir conserver les mémoires LGBT. Hein, on apprend qu'il y a des mémoires LGBT qui sont séparées de la mémoire collective ou de la mémoire générale. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces archives LGBT ? Donc, des archives d'auteurs LGBT qui donc deviennent des auteurs LGBT. Ce ne sont plus des écrivains, ce sont en fait des auteurs LGBT.
Qu'est-ce qu'un auteur LGBT ?
Je ne sais pas, Gilles est peut-être un auteur LGBT.
Est-ce que Jean
LGBT,
Genet est un auteur LGBT ? Est-ce que Pierre Gripari est un...
Il va y aussi avoir... on va conserver des films pornographiques LGBT, c'est assez important aussi. Hein, l'adresse n'est pas encore publique, mais on vous la communiquera dès que possible. Donc voilà, et ça va coûter des centaines de milliers d'euros, et ce sera évidemment chaque année, hein, c'est pas une seule fois, mais en effet ça permet d'avoir un public captif, hein. Il y a quand même certains quartiers de Paris où la population LGBT, pour parler de cette façon-là, est assez conséquente et a un vrai rôle et un vrai poids politique, et en la caressant dans le sens du poil, si vous me permettez cette expression, on gagne évidemment facilement plus facilement son vote. Mais les subventions, ça s'arrête pas à ça. Il y a une liste impressionnante, c'est plusieurs centaines de millions d'euros par année distribués à des associations.
Et il faut voir d'ailleurs, pour continuer la pensée de Xavier Aymon, le détail des associations des subventions, des associations, il y a des choses absolument hallucinantes, des associations absolument hallucinantes, qui concernent deux ou trois personnes, des associations selon certaines pratiques sexuelles qui vont regrouper, je pense, quatre ou cinq personnes, qui vont toucher quelques milliers d'euros de subventions par-ci, par-là. Et tout ça, effectivement, forme une galaxie où se déverse un pognon de dingue, pour reprendre l'expression pour reprendre l'expression à la mode, et c'est terrifiant quand on voit Paris se dégrader de plus en plus et quand on voit les priorités de la ville de Paris, on se dit qu'effectivement elles sont avant tout idéologiques, elles ne sont pas du tout guidées par un choix politique rationnel, quoi.
François Devoyer, vous vouliez réagir ?
Non, je m'interrogeais sur ce que deviendraient les archives de Pierre Palmade, mais ça, c'est un
autre sujet. On parlera peut-être sujet des archives en fin LGBT. D'émission.
La seule chose qui m'inquiète, c'est que ça n'est pas propre à Paris. C'est-à-dire que ce qui se passe à Bordeaux, c'est ce qui se passe à Nantes, ce qui se passe dans la plupart des grandes villes de France. Il y a au fond une véritable tiers-mondisation aussi du pays, une augmentation de la corruption... par le haut et par le bas, à tous les degrés, malheureusement, on peut l'observer. Et c'est très drôle, parce que je me souviens toujours du mantra de nos adversaires progressistes il y a quelques années, c'est les gens bas du front, les fascistes, il faut les faire voyager. Moi, j'aimerais beaucoup que nos progressistes voyagent aujourd'hui et se rendent compte à quel point notre situation s'est dégradée en quelques années. Si vous voyagez aujourd'hui à Budapest, à Varsovie, et même à Londres, qui est sans doute une des villes qui a su redevenir à peu près propre et nette. C'est-à-dire que Londres en 2000, c'était Paris aujourd'hui, et l'évolution est frappante. En 20 ans, Londres est devenue beaucoup plus propre. Alors, il y a des défauts aussi, ils ont évacué la pauvreté aux périphéries. Mais surtout, quand on voit dans les pays de l'Est ce qui est possible, gérer des villes, effectivement, mais on pourrait dîner par terre. Et là, quand on dit oui, ça, c'est les Européens sont sales, les Français sont sales. Enfin, bon, je ne crois pas que la réputation des Hongrois, des Polonais ou des Roumains, si on va à Bucarest, était particulièrement d'être des peuples extrêmement appliqués et d'une propreté soigneux. Irréprochable et soigneux. Non, on a simplement un pays qui s'enfonce chaque jour davantage. Et le paradoxe, enfin, quoi qu'on dise, le poisson pourrit toujours par la tête, mais c'est qu'effectivement, c'est en premier lieu visible. Paradoxalement, dans cette vitrine incroyable qu'est la ville de Paris.
Alors, moi, je pense que ces élites que vous dénoncez voyagent un peu quand ils se baladent dans Paris. On parlait de tiers-mondisation. Il est un fait qu'il y a une population qui arrive de plus en plus. On parlait de l'exode de certaines populations qui n'arrivent pas à se loger. Il y en a d'autres qui, je pense, n'ont pas les mêmes problèmes économiques, mais qui sont aussi sous perfusion parce qu'on les fait venir ou on leur fait miroiter un Eldorado. Je veux parler de ces populations de migrants qui souvent sont les premières victimes de ce système. Je crois aussi que la ville de Paris fait tout pour les attirer. Je crois que Jean-Yernis, vous connaissez un peu la question.
Il y a des choses assez drôles pour faire un lien entre tout ce qu'on dit. On parlait des subventions. Il y a une subvention qui a été versée en Tunisie pour éduquer les jeunes Tunisiens à la propreté. Donc, quand on voit l'état de Paris, c'est quand même assez ironique. Et après, on peut constater qu'on a des bidonvilles qui se reforment à Paris. Il faut oser le mot de bidonville, je pense, autour du périphérique. Donc, on parlait de la Porte de la Chapelle tout à l'heure. C'est pas le seul endroit de Paris qui est problématique. Et en parallèle de ça, on a la mairie qui verse 100 000 euros à SOS Méditerranée, qui est une organisation non gouvernementale qui amène les migrants africains par bateau jusqu'à nos portes. Rappelons-le, l'agence Frontex elle-même reconnaît que cette association provoque un appel d'air en termes de migration et de migrants. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, une quinzaine d'années, la politique européenne était de dire aucun migrant dans la Méditerranée ne vient jusqu'en Europe. Depuis quelques années, depuis une dizaine d'années maintenant, on décide d'amener les migrants en Europe. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte aux passeurs. L'Australie a adopté une stratégie totalement différente en disant les migrants ne seront pas accueillis sur nos côtes. Et ben, il n'y a plus de passeurs. Parce qu'en fait, quand on sait qu'il n'y a pas de marché, le marché ne se développe pas. Là, on est sur un marché... De la pauvreté et où en fait on fait venir de pauvres hommes sur des bateaux dans des conditions difficiles où certains perdent la vie à cause de ces passeurs. Ils sont entre guillemets sauvés et quand ils arrivent à Paris, on leur offre quoi ? Une porte de périphérique et la colline du crack. Donc en fait, tout est d'une hypocrisie sans nom. On met ces hommes, on met de la vie d'hommes en danger, parce que on nous parle d'hommes, c'est de famille, c'est je crois que c'est 80% d'hommes dans les migrants qui arrivent à Paris.
Bon, il suffit de regarder de toute façon. Et ils ont des yeux, mais ils ne voient
même
pas.
Les collectes faites dans chaque mairie d'arrondissement, vous avez des boîtes pour faire des collectes de produits d'hygiène, de vêtements pour les maraudes, tout ça. On ne demande que des vêtements d'hommes. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. La mairie le sait.
Et il y a un cercle, il y a un cercle vicieux, puisqu'en effet, on reçoit ces gens dans des conditions qui sont en effet très très mauvaises. Mais en fait, ce qui va se passer, tout le monde le sait, les migrants le savent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont devoir en effet vivre dans ces conditions quelques semaines ou quelques mois avant que soit organisée une grande opération de mise à l'abri, où ils vont être pris en charge et dispersés dans des centres d'accueil en région parisienne, voire en province, où là ils vont être pris en charge, nourris, blanchis, logés, etc., aux frais de la princesse, si je puis dire. Donc c'est un cercle infernal, ça ne s'arrêtera jamais. Les opérations de mise à l'abri, il y en a quasiment tous les 15 jours maintenant. À chaque fois qu'un campement sauvage est démantelé, il réapparaît dans les heures ou les jours qui suivent, il est reconstitué. Ça ne peut pas finir, et donc ce sera une charge de plus en plus importante, à la fois pour Paris, parce qu'un certain nombre restent quand même dans des centres d'accueil à Paris, mais beaucoup en Ile-de-France qui connaît déjà d'autres problèmes dans ce domaine, et même en province. Et c'est le fameux phénomène où on commence à installer ces migrants déculturés, acculturés, dans des petits villages en Bretagne, en Normandie, etc., etc. Mais en effet, tant qu'il n'y a pas de solution politique, ça ne peut pas s'arrêter. Tant qu'on ne ferme pas le robinet d'arrivée, ce n'est pas gérable à long terme.
À titre de comparaison, le prix de la prise en charge des mineurs, de ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, donc les fameux MNA, déjà dont l'état de minorité est sujet à caution, le coût pour les pouvoirs publics est environ d'1,5 milliard d'euros par an. C'est le budget total de la mairie de Paris, un milliard et demi. Donc en fait, c'est ce qu'il faut bien comprendre en fait quand elle parle de ces sujets-là. Donc ce 1,5 milliard d'euros qui est utilisé pour des MNA qui en plus mettent le pays à feu, mettent les rues à feu et à sang globalement. Pas tous évidemment, mais en tout cas on constate une surreprésentation de ces mineurs non accompagnés dans la délinquance, dans les rues. C'est en tout cas les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et on a donc c'est autant d'argent qui ne sera pas employé pour en venir en aide aux nécessiteux, pour pallier aux chantiers urgents. Quand vous voyez la ville d'Issy-les-Moulineaux, en tout cas sur une grosse campagne nationale, je l'ai vu à Issy-les-Moulineaux, mais c'est sur tout le territoire. Quand vous voyez qu'on dépense des centaines de milliers d'euros pour des campagnes de sensibilisation contre l'excision, vous dites, en fait, c'est bête, mais tous ces sujets-là, tout cet argent employé finalement pour des problématiques importées de l'extérieur, eh bien, c'est autant d'argent qui ne va pas résoudre les grands problèmes, c'est autant d'argent qui ne sera pas investi dans la propreté des villes, dans la sécurité dans les transports, dans les infrastructures scolaires de la petite enfance. Et en fait, c'est pas seulement ça coûte de l'argent à la collective, mais ça prive aussi des organismes de fonds dont ils auraient énormément besoin.
C'est ce que dit souvent Xavier Aymon et que j'aime beaucoup, c'est quand il dit que quand on se plaint qu'il n'y ait pas d'argent, en fait, si, il y a de l'argent, mais qu'il est assez mal utilisé.
Il y a aussi juste un phénomène qui est assez intéressant pour montrer la dégradation de Paris et de la France plus généralement, mais de Paris. C'est un phénomène qui est mis en exergue récemment dans quelques médias. C'est alors ça peut paraître anecdotique, mais pour moi c'est très révélateur. C'est l'explosion des saisies de viande de brousse à l'aéroport Charles de Gaulle. Ça,
j'aime bien les petites anecdotes comme ça.
Mais c'est tout à fait
la petite histoire rejoint la grande histoire.
Et c'est tout à fait inquiétant parce que donc maintenant,
c'est ce que confirment tous les douaniers. Hein,
quasiment 30 tonnes par semaine de viande de brousse. Alors la viande de brousse, ça peut être du pangolin. Apparemment, plusieurs pangolins sont saisis chaque semaine à Charles de Gaulle, des serpents, des singes. Et donc toute cette viande de brousse qui est en plus qui représente un véritable danger en termes sanitaires, puisque ce sont des viandes qui sont en plus qui voyagent dans des conditions que vous imaginez, qui sont pas réfrigérées, etc., etc., et qui peuvent être potentiellement porteuses de plein de maladies. Et dans un système qui sort justement d'une épidémie, qu'on ne prenne pas au sérieux ce genre de choses, c'est quand même assez hallucinant, et c'est quand même une démonstration de plus d'une africanisation, d'une tiers-mondisation de notre pays.
François Devoyer, vous vouliez réagir.
Oui, j'ajoute simplement pour rebondir et sur les propos de Marc Hainaut et sur ceux de Xavier Mons. On nous fait souvent croire que l'AME, donc l'aide médicale d'État, ou les mineurs isolés existent de toute éternité. Ce sont des phénomènes en réalité très récents. Récemment, Marlène Schiappa expliquait doctement que c'était abominable d'imaginer un monde sans AME, qu'il fallait bien sûr faire preuve de cœur, de charité. On n'a pas employé le mot charité, bien sûr, de solidarité. L'AME a été créée en 2002. C'est tout récent. Et à l'époque, elle coûtait moins de 100 000 euros. Aujourd'hui, effectivement, on est au-delà du milliard. Et les mineurs isolés, c'est exactement le même phénomène, puisque je crois qu'il n'y en avait presque pas encore en 2010. Hein. C'est un phénomène très récent, ou en tout cas 2005. Donc c'est des phénomènes qui s'accélèrent, qui se font à toute vitesse. C'est-à-dire la dégradation de Paris, elle s'est faite en très très peu de temps.
Bah, en fait, moi je pense que Paris est quand même bien dégradé. La nouvelle politique pour moi, c'est plutôt on va dégrader ce qu'il y a à côté. Notamment en vue des JO 2024, on parlait justement des campements de migrants juste avant. Je crois que maintenant, on essaye de repousser... En fait, Xavier Aymon disait tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on en démantelait un, il en repoussait un comme un champignon. Mais maintenant, on essaye de faire en sorte qu'il ne repousse pas au même endroit. On le déplace de plus en plus vers la banlieue. Ce qui, je pense, est une grosse erreur parce que, de toute façon, les JO 2024 engloberont toute la région parisienne. Donc,
Et notamment la Seine-Saint-Denis, qui est le cœur du dispositif des JO. Ça, c'est encore un choix extrêmement judicieux. Le monde entier va pouvoir se rendre compte de l'état de ce département, qui certes, selon certains politiciens, est une grande zone de ressources d'intellectuels et de futurs entrepreneurs.
La Silicon Valley...
qui est un peu la Silicon Valley d'Île-de-France. Les journalistes étrangers auront peut-être à y voir la même chose quand ils y sont.
Je vous trouve assez pessimique, Xavier Aymon. Je trouve que la finale de la Ligue des Champions au Stade de France est extrêmement bien passée et augure une très belle organisation et des JO sereins, en tout cas.
Jean-Yves Nice.
D'ailleurs, à ce sujet, c'était Thierry Henry qui, dans un média anglais, avait déclaré quelques semaines avant la finale de la Ligue des Champions « Non, la finale n'est pas à Paris, elle est à Saint-Denis. » Et donc, ses collègues chroniqueurs et journalistes disent « Mais non, mais Saint-Denis, Paris, c'est pareil. » Et lui dit « Non, non, Saint-Denis, c'est pas Paris. » Mais il dit ça de façon... D'ailleurs, c'est vrai, Saint-Denis
n'est pas
Paris.
Oui, c'est une considération géographique, en fait.
On dit ça, une considération géographique et un état de fait. Et quelques semaines après, quand on a appris tous ces incidents et tout, ça s'avérait très juste. Moi, j'aimerais bien qu'on reparle d'autres choses, parce qu'en fait, là, on se concentre sur certains sujets, mais on aurait tellement à dire sur la mairie de Paris. Bon, déjà, il y a une dette colossale. On est à 7,5 milliards de dettes, alors qu'elle était à 1 milliard quand Bertrand Delanoë a laissé la mairie de Paris. Donc, c'était en 2001, je rappelle. Donc, c'est quand même il y a 20 ans. Donc, en 20 ans...
C'est une belle avancée.
La dette a pris 7 milliards. Et il y a d'autres choses. On a la mairie qui est en train d'imaginer un code de la rue pour les mobilités douces à Paris. Donc, pour faire cohabiter les trottinettes, les vélos, les piétons et les automobilistes. Alors, donc, je suis heureux d'apprendre que le code de la route ne suffit pas, il faut édicter un code de la rue pour les bonnes pratiques urbaines. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même un code de la route qui pourrait être perfectible d'ailleurs, parce que c'est vrai que le code de la route ne prévoyait pas, pardonnez-moi, ces imbéciles à trottinette électrique dans nos rues. Alors j'espère que personne n'en fait autour de la table. Mais non. On est quand même sur un phénomène.
Pas encore.
Mais elle parlait aussi de les interdire, donc alors, parce que ça pose apparemment quand même pas mal de problèmes de
alors,
sécurité.
Après avoir laissé,
à Soukrat, ça marche beaucoup moins bien.
Après avoir laissé prospérer des sociétés privées autour de ces trottinettes électriques, il est question d'organiser un référendum citoyen sur le devenir des trottinettes électriques.
Ah, toujours les vrais problèmes. De toute façon, quand il y a un référendum, c'est toujours sur un problème clé. Hein, on consulte le peuple vraiment sur les choses qui lui touchent le plus profondément.
Alors, est-ce que les jeunes qui montent à 2 voire 3 sur les trottinettes iront voter pour les défendre? On ne sait pas. Mais toujours est-il, ça c'est quand même signifiant de la politique hidalguienne. C'est-à-dire que le problème des trottinettes électriques, c'est qu'il y a quand même eu un laisser-aller. On a dit oui, il y a un vide juridique, ce sont des opérateurs privés, on n'a pas la main. À un moment, on a la main. On peut dire, on peut autoriser ou ne pas autoriser l'installation sur le domaine public de tels moyens de transport. Je veux dire, si demain vous décidez d'ouvrir des commerces sur les trottoirs et que la mairie ne prend aucune TVA, aucune taxe d'entreprise, vous allez être très vite rattrapé. Mais non, quand c'est...
Ça dépend où. Hein. Je vous invite à aller au marché à Château Rouge. Je ne pense pas que les gens qui déballent à même le trottoir, etc., payent des patentes et des impôts sur leur vente.
Mais en fait, c'est toujours la même chose.
Un peu.
Il y a le double standard pour les géants de la technologie et ces miséraux-là. Il y a toujours un vide juridique. Mais le français moyen et nos auditeurs qui nous écoutent, si demain on a des patrons de bistrot qui nous écoutent, si ils ont le malheur de dépasser de 10 cm leur terrasse, ils vont avoir la visite de la municipale pour leur dire « Ah non, là, il faut payer une amende et puis il faut payer une patente. Hein. » Donc, il y a quand même des règlements qui s'appliquent pour les gens à qui on veut les faire appliquer.
Oui, tout à fait. François Devoyer, vous vouliez réagir.
Oui, je ne vais pas forcément plaindre les cafetiers sur l'histoire des terrasses. Je pense qu'ils ont assez bien profité des règles Covid, en l'occurrence. Non, c'est sur la mobilité, je suis partagé parce qu'on voit cette évolution tout de même dans la plupart des grandes villes. Oui, on sait que les voitures petit à petit vont disparaître de toutes les grandes métropoles.
Il y a les fameuses ZFE. Zone à faible émission.
Oui, parfait. Non, mais de fait, ça répond aussi à une transformation des modes de vie. Et je ne suis pas choqué qu'on réfléchisse à un code de la rue, entre guillemets, parce que ça correspond au mode de déplacement aujourd'hui de la plupart des urbains. C'est pas ce qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus, c'est plutôt, alors je vais peut-être vous surprendre, mais la façon dont... En fait, pourquoi structurellement, à Paris, c'est plus compliqué par rapport à d'autres villes ? Eh bien, je pense que c'est lié à deux choses. Le fait qu'on est un maire de Paris, moi j'aimais beaucoup le temps où c'était un préfet qui gérait tout ça.
Ça fait 30 ans, hein.
Ouais, c'est tout récent en fait. Hein. Et la deuxième chose, c'est que je pense que Paris n'a pas su s'élargir suffisamment. Moi je suis favorable à un Paris à 30 ou 40 arrondissements, en tout cas 30. Paris s'est agrandi au fil du temps. Aujourd'hui, Paris reste une des plus petites capitales au monde, si on parle de géographie. C'est 10 fois plus petit que Londres, c'est 15 fois plus petit que Moscou, c'est 8 ou 9 fois plus petit que Berlin, et si je ne me trompe pas, c'est 2 fois plus petit que Lyon.
Pour vous oui, mais quand on voit qu'on ne sait pas gérer cette petite surface, je me demande ce que ça va faire sur la grande surface.
Oui, mais justement,
surface.
C'est qu'on veut tout mettre dans cette petite surface, et donc on fait tout à l'envers, à mon sens. Or, sur une petite surface, et avec l'augmentation générale de la population, surtout des voyages, du tourisme, des flux de population... est-ce que Paris doit devenir simplement un musée ou une grande zone commerciale ?
Oui, mais
c'est un vrai sujet. Si on n'agrandit pas Paris, effectivement, on n'aura pas le choix.
Vous pouvez faire devant Malakoff le 21e arrondissement de Paris, mais je vois pas. Enfin, je vois pas ce que ça.
Gérer de manière cohérente. C'est-à-dire que quand on parle de Grand Paris, on parle de d'usine à gaz une fois de plus. Ça ne correspond à rien. Le concret, c'est de se dire si les dix villes autour de la petite du Paris actuel, donc la petite couronne en gros, devenait Paris, effectivement on pourrait imaginer une gestion qu'il faudrait un peu plus planifier, d'où mon retour à la préfecture de police, un peu sérieuse. Je rappelle tout de même que là où nous sommes précisément, c'était une ville indépendante, hein. On devait être là ici au village d'Auteuil, c'était une commune tout à fait distincte de Paris jusqu'à mon avis en 1860, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là.
Mais c'est un peu, cet agrandissement, c'est un peu ce qui se fait par l'agrandissement du réseau de transport, et d'ailleurs j'ai envie de dire, peut-on en vouloir à Madame Hidalgo ? C'est Madame Pécresse, en tant que présidente de la région Île-de-France, qui laisse se dégrader les transports en commun, parce qu'il faut dire les choses dans l'état des lieux général de Paris, de sa tiers-mondialisation, de sa saleté, de son enlaidissement. Il y a aussi la dégradation des choses de la vie quotidienne, dont les transports font partie, et je ne suis pas certain que Anne Hidalgo soit responsable de tous les maux. Comme non, François Devoyer, moi j'aime bien Madame Hidalgo. Enfin, je ne lui mets pas tous les maux de Paris sur le dos.
D'ailleurs, on peut se souvenir, si on parle de transport parisien, vous avez évoqué Valérie Pécresse, il y a aussi l'ancien Premier ministre qui est à la tête de la RATP aujourd'hui. Quand on voit le fonctionnement de la RATP, qu'on a un Premier ministre à la tête de cette institution, on peut vraiment s'inquiéter parce que là, c'est catastrophique. Pour les non-parisiens qui nous écoutent, aujourd'hui, les attentes dans les métros sont absolument délirantes et il y a une masse de personnes parce qu'il n'y a tout simplement plus de conducteurs. Enfin, on est dans une situation...
Et encore, mais le métro fonctionne mieux que le bus. Alors, le bus, oui. C'est le chaos total. Moi, je prends régulièrement des photos des écrans avec les temps d'attente. Parfois, c'est 40-50 minutes entre deux passages. Enfin, c'est absolument délirant. Alors, ce sont peut-être des bugs techniques, enfin des problèmes techniques, mais c'est tellement récurrent que j'ai l'impression que c'est quand même souvent le cas.
Le bus, moyen de transport des femmes avec des enfants et le moyen de transport des personnes âgées. Je veux dire, c'est quand même le moyen de transport des gens, entre guillemets, les plus faibles. Qu'on s'entende, hein, il n'y a pas de choses négatives dans ma bouche quand je dis ça, mais le bus, à la base, c'est quelque chose qui est fait pour rallier rapidement deux endroits dans Paris. Les bus circulent en moyenne à 9 km/h dans Paris. C'est-à-dire que si vous marchez rapidement ou avec une petite foulée, vous irez plus vite à pied qu'en bus. Je veux dire, le bus, il y a...
On sent avec toute la problématique aussi des travaux. Alors évidemment, il faut faire des travaux. On ne peut pas se plaindre qu'il n'y ait pas d'amélioration si on ne voit jamais de travaux. Mais il y a aussi peut-être une programmation qui est problématique. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les transports en commun sont dans une situation...
Les travaux, c'est comme au mobilier urbain, c'est pour les jeunes artistes.
Ouais, mais ça rejoint la problématique, en effet, de la voiture et des autres moyens de transport. Moi, je suis pas un pro-voiture à tout craint, notamment dans les centres-villes, etc. Mais tant qu'on n'a pas une alternative crédible, efficace, sûre, on ne peut pas demander aux gens de laisser leur voiture en dehors de Paris et de venir avec les transports en commun, sachant qu'ils vont avoir un jour sur deux la grève, un jour sur trois une panne technique, et la quatrième jour une agression qui va bloquer tout le train pendant 2 heures.
Donc, le bruit, tout ça.
On prend les choses à l'envers, à mon avis. Si on veut, au lieu de décourager de façon arbitraire en mettant des amendes, etc., les gens de prendre leur voiture, il faut leur offrir des alternatives crédibles avec des grands parkings qui leur permettent de laisser facilement leur voiture avant d'avoir un train de bonne qualité qui ne ressemble pas à un taudis surchauffé ou gelé en hiver, etc. Mais après, c'est compliqué parce qu'il faut des investissements, etc. Mais on aura beau investir tout ce qu'on veut, tant qu'on aura certaines populations qui se comporteront d'une certaine façon dans ces transports, le problème se posera tout le temps, même dans des rames neuves.
Marc Henault, vous direz rien.
D'autant qu'on souffre d'une hypercentralisation. Alors, personne n'apprend rien en disant que quand je dis que la plupart des services sont à Paris et qu'autour, même vous allez à 30-40 km de Paris, si vous voulez trouver un médecin spécialisé, un rendez-vous de généraliste, de pédiatre ou de ce que vous voulez, c'est à Paris. Donc, cas pratique, vous habitez à 40 km de Paris, vous avez le choix entre la voiture et les transports en commun. Les transports en commun avec des enfants en bas âge, c'est juste l'enfer, on l'a suffisamment dit. En tout cas, le RER, le métro, rien n'est fait pour cela. Et l'autre option, c'est la voiture. Vous mettez vos enfants dans la voiture, vous partez, évidemment vous tombez dans l'heure de pointe, vous arrivez devant l'endroit où il y a le cabinet médical, vous n'avez pas de place où vous garer, donc vous faites des tours, donc vous vous garez sur une place non autorisée, vous revenez, vous êtes content, vous êtes repris un PV, vous remettez 2 heures ne serait-ce que pour sortir de Paris. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout est compliqué, ce qui veut dire que Paris est une sorte d'enfer où pour se déplacer ou pour accéder à des services, on est obligé de se battre, et lorsque vous sortez de Paris, en réalité, il n'y a plus rien. Donc c'est le grand drame en fait de la façon dont est fait ce pays et la façon dont les déserts se multiplient un petit peu partout, c'est que Paris est à la fois on ne peut se passer des services de Paris et en même temps tout est fait pour nous dissuader d'y aller. En tout cas, tout est fait pour compliquer la chose. À tel point que je me suis retrouvé dans une gare de banlieue, je me suis retrouvé aller au guichet pour leur demander quand se terminait la grève, parce que de fait c'était insupportable, et la personne m'a répondu: mais monsieur, on n'est pas en grève aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont inaudibles d'ailleurs, c'est qu'on ne fait plus la différence en fait entre les jours de grève et les jours où ils ne sont pas en grève, puisque dans tous les cas c'est effectivement désastreux.
Jean-Ernest.
Et puis avec une pensée magique, c'est-à-dire que on projette un projet, on parlait tout à l'heure, pardonnez-moi, ça se dit pas vraiment projet, mais on a des belles idées et on se dit ça va fonctionner. Donc on avait ce que nous disait Xavier Aymon tout à l'heure sur cette belle promenade, et là on nous dit on va supprimer 30% des places de stationnement dans Paris. Mais on les supprime, c'est-à-dire que c'est un état de fait, on va les supprimer, mais sans prévoir derrière de plan B en fait. Mais en fait, on les supprime et on verra. Et c'est tout fonctionne comme ça en fait dans cette politique.
À chaque fois qu'on fait une réforme, par exemple, on peut en penser ce qu'on veut, mais le fait de faire payer les places de stationnement pour les scooters, les deux roues, ça peut se défendre, on peut être contre, je comprends aussi, mais je crois que la manière dont cela est géré est une véritable usine à gaz. J'ai des gens dont je suis assez proche qui me racontent qu'ils sont confrontés à ce problème tous les jours parce qu'eux, ils utilisaient ce moyen de transport. Ils ont fait la personne à laquelle je pense a fait 2 ou 3 demandes consécutives, et à chaque fois, on lui a refusé son dossier pour des raisons qu'il ne connaissait pas. Et puis, vous connaissez le monde magique dans lequel on est. Il faut prendre le rendez-vous en ligne quelques temps avant, puis vous arrivez devant. Si vous n'avez pas le bon papier, on vous fait revenir chez vous. Enfin, bref, c'est un peu l'enfer. Donc, la dernière question que j'ai envie de poser, parce que je pense que, même si encore, on pourrait dire énormément de choses, que c'est une des seules villes où on ferme des écoles faute d'élèves, on peut parler des rats, enfin des surmulots, de toutes ces choses-là. Enfin, je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie ont quand même un aperçu à peu près complet de ce qu'est devenu Paris. C'est la grande question que j'ai envie de vous poser, c'est: peut-on sauver Paris? Peut-on la sauver politiquement? On parlait de, du clientélisme? Est-ce que la sociologie nous est complètement défavorable et il ne faut pas compter sur le fait que la droite, voire le Rassemblement National, puisque on ne sait pas trop comment qualifier ce parti, puisse un jour espérer être aux commandes d'une ville dont les gens n'en peuvent plus.
Il faudrait déjà qu'ils se présentent.
Ouais, il faudrait que le Rassemblement National ne déserte plus la capitale déjà.
Non mais peut-on sauver Paris, Xavier?
C'est aussi un des problèmes. Alors, moi, je suis assez pessimiste sur cette question-là. Je pense qu'il vaut mieux, en effet, envisager plus de décentralisation, plus de réorganisation pour alléger Paris. Peut-être que via cet allègement, on pourra améliorer les choses. Mais à l'heure actuelle, je vois en effet pas vraiment de solution politique à court terme. On l'a vu, en effet, là, aux dernières municipales, le Rassemblement National ne s'est même pas présenté sous ses propres couleurs. Il a fait une liste commune qui avait ses mérites, hein, d'ailleurs. On l'a relayé sur Paris Vox, etc. Mais on voit bien qu'ils ne s'investissent pas de façon massive dans cette cause qui, je pense, leur semble un peu perdu d'avance, notamment du fait de la sociologie, des derniers résultats des élections où le macronisme a tout écrasé, à part les quelques quartiers où le mélenchonisme faisait de la résistance. Forcément, ça ne donne pas tellement envie. Il faut falloir y aller au couteau là, pour gagner des électeurs et à faire un travail militant auquel le RN n'est peut-être plus tellement habitué non plus, quoi. Donc de ce côté-là, je ne vois pas beaucoup de solutions. À titre individuel, non plus. Je fais partie des gens qui envisagent de quitter la capitale, mais je n'y vois plus assez d'intérêt. Je n'y vois plus assez de bon côté, là, en faisant l'équilibre. Et donc, c'est toujours un peu malheureux de partir. C'est toujours une forme d'exil, mais même si, bon, il ne s'agit pas de s'exiler à l'autre bout du monde, mais dans sur le sol national, toujours. Mais oui, je suis assez pessimiste, malheureusement. Encore une fois, après, tout est toujours ouvert. Hein,
Jean-Hernis, vous voulez quitter Paris ?
À court terme peut-être, à long terme je ne sais pas. Toujours est-il que moi je suis beaucoup plus optimiste sur Paris.
Je n'en doutais pas.
Ce qui a été défait peut se refaire. Alors oui, effectivement, rien ne nous donne d'indice pour gagner. Même la droite, je ne vois pas la droite ravir la capitale à Paris. Si demain Anne Hidalgo ou sa coalition rose, verte, rouge perd la capitale, il y a de grandes chances qu'elle soit perdue au profit d'En Marche, parce que déjà de nombreux élus de droite ont rejoint la majorité présidentielle. Mais ce qui a été cassé peut se refaire. Alors, dans les 10-15 ans, non. Je vois difficilement comment, mais rien n'est impossible. Et voilà, de ce qui se passe à l'échelle de Paris peut se passer à l'échelle de la France ou de l'Europe. Donc je suis quand même confiant en ce que l'homme européen se réveille et que je le souhaite pour mon continent, je le souhaite évidemment pour ma capitale.
Bah, c'est plein d'espoir quand même. François Devoyer et Marc Hainaut, avant une petite communication de la radio, un dernier avis sur Paris. Peut-on le gagner? Peut-on perdre?
Rapidement, je pense que tout est rattrapable. Il y a deux échelles. Il y a le plan politique où là c'est perdu. Hein, faut oublier d'ailleurs que ça n'a jamais été acquis. Hein, depuis très longtemps. Et puis, le mode de vie, la beauté de la ville, son charme. On voit ce qui s'est passé. Je citais tout à l'heure Londres, New York. On voit ce qui s'est passé dans les capitales est européennes. C'est très facile en fait de, quand on la gère correctement, de remettre une ville à peu près en état. Donc c'est pas ce qui m'inquiète. Sociologiquement, en revanche, oui, Paris est perdu. Et en tout cas pour très très longtemps, ça se compte en générations là.
Marc Hainaut.
Balzac disait que les rues de Paris étaient un bourbier en parlant des gens qui y habitaient. Et je pense que maintenant les rues elles-mêmes le sont devenues au sens littéral. Non, c'est d'une tristesse infinie parce que Paris a été, je vais pas sortir la complainte habituelle, mais
libéré.
Paris brisé, Paris libéré. Mais Paris reste une des villes qui a illuminé le monde de la culture, le monde de la littérature, a été longtemps un symbole de. A été longtemps un fantasme, un symbole de beauté, d'élégance, de charisme, de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, voir Paris s'abîmer de la sorte, c'est vraiment d'une tristesse abyssale. Mais encore une fois, oui, tout est rattrapable. On ne demande pas forcément une espèce pas forcément une reconquête politique au sens où, où nos idées doivent absolument gouverner Paris, mais au moins le retour d'une forme de bon sens et de pragmatisme, et qu'on en finisse avec une équipe municipale qui nous vend des projets uniquement en images 3D, et pour derrière nous faire découvrir une réalité qui est abominable.
Merci pour ces paroles d'encouragement, Marc Hainaut. Tout de suite, un petit Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors après ce petit Bobino pour soutenir cette chère radio que nous aimons tant, nous avons fait le tour de Paris, son état des lieux. Quelques messages d'espoir quand même, de lendemain meilleur. Enfin bon, si la sociologie nous le permet, je voudrais tout de suite parler d'une autre chose dont on pourrait rapprocher avec le sujet précédent. Nous parlions de cette élite déconnectée parisienne à travers la personne d'Anne Hidalgo. Aujourd'hui, ce qui fait malheureusement l'actualité, et je ne suis pas forcément très content d'en parler, mais ce que nous disions lors de l'affaire Lola autour de cette table, c'est que quand un fait de société devient important, ça devient un fait politique, il est important d'en parler. Je veux parler de l'affaire Palmade. Donc, c'est une personnalité publique qui a causé un accident. Et d'ailleurs, je voudrais un peu revenir sur la manière dont les choses ont été présentées au tout début du battage médiatique qui a eu lieu sur cette affaire. C'est-à-dire que je crois que les premières dépêches AFP, ou en tout cas les premiers titres de presse qui ont parlé de cet accident tragique, parlaient de Pierre Palmade, donc acteur humoriste, je crois, Pierre Palmade, victime d'un accident. Alors, il s'est avéré qu'en fait, Pierre Palmade était plutôt la personne qui avait commis cet accident, en tout cas qui était responsable de cet accident routier. Qu'est-ce que vous évoque cette affaire, Marc Hainaut, vous qui côtoyez et les éboueurs de la mairie de Paris et le tout Paris
Bien sûr, évidemment, le tout Paris, ben voyons. Non, en fait, il y a tout dans cette affaire Palmade. Il y a une élite déconnectée qui se croit tout permis.
Est-ce que vous pouvez préciser un peu aux auditeurs de Radio Courtoisie ce qui s'est passé? Enfin, ce qu'on sait aujourd'hui de l'affaire. Donc, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils ne peuvent malheureusement pas réagir au cours de cette émission car elle est préenregistrée. Nous sommes le vendredi 17 février. Cette émission est diffusée en direct ce samedi 18 février, donc nous sommes à un jour de la diffusion. Je pense pas que les éléments vont énormément changer sur ce qu'on sait de cette affaire, mais est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le cadre général?
Oui, alors qu'est-ce qu'on sait? Pierre Palmade est un humoriste plutôt de talent. Moi, franchement, d'un point de vue purement artistique, j'aime bien, il m'a toujours globalement fait rire, j'ai plutôt apprécié ses spectacles. Pierre Palmade a eu un accident de voiture, il a croisé une voiture transportant un homme, une femme enceinte et un petit garçon de 6 ans. Pierre Palmade a été accompagné de deux personnes, évidemment, dont le profil est encore un petit peu à l'étude. Pierre Palmade, pour une raison a priori inconnue, sort de sa trajectoire et vient emplafonner la voiture qui arrivait en face. Drame terrible, puisque donc Pierre Palmade est gravement blessé. Le jeune enfant et l'adulte ont été dans un état très grave. Ils ont été placés dans le coma avec de multiples traumatismes. La femme enceinte de 6 mois a perdu son enfant et les deux personnes qui accompagnaient Pierre Palmade ont fui le véhicule. Il s'est avéré que Pierre Palmade était sous l'emprise de la cocaïne, qui est une drogue à laquelle il était dépendant. Il s'en est jamais d'ailleurs caché. Il y a longtemps, pas assez longtemps, à y pencher dans les médias pour son addiction à cette drogue. Et donc évidemment, scandale national, puisque en plus, on était à une heure normale, entre guillemets. On n'était même pas dans une configuration, mettons, où la voiture, enfin, où il était 2h du matin, où c'est une heure à laquelle potentiellement on peut tomber sur des gens ivres. Plus dans la capacité de conduire correctement. Il était 18h 18h30, une heure normale où on rentre en famille pour un quelconque trajet. Et ce drame terrible, et Pierre Palmade qui s'en sort, en plus les deux personnes qui fuient sans porter assistance aux victimes. Enfin, tout, si vous voulez, dans cette affaire, effectivement, est symptomatique, symptomatique d'une élite déconnectée, symptomatique d'une conduite irresponsable, symptomatique en plus d'un milieu qui s'est resserré pour défendre l'un des leurs. Et en plus, cette question, effectivement, alors qui est plus du domaine du légal et voire même de la bioéthique, c'est le statut en plus de, pour l'instant, la seule victime décédée aujourd'hui, qui est l'enfant à naître de cette dame. Et là, à ce détail sordide de l'histoire, se pose la question sur était-ce... je vais être très très violent. Était-ce un enfant ou était-ce une chose, en fait ?
Oui, alors je pense qu'on reviendra sur cette question un peu plus tard dans l'émission. Moi, si ce fait prend tant d'importance, c'est en raison de la notoriété de Pierre Palmade. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. La première question que j'ai envie de poser, François Devoyer, est-ce que il est normal qu'une personne publique se vante se vante ou se lamente, mais en tout cas fasse état de sa dépendance à la cocaïne et que rien ne soit fait derrière, ce qui peut provoquer des drames comme on le voit actuellement.
Je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve qu'il est un peu tôt pour accabler Pierre Palmade.
Je ne surprends pas du tout parce que vous êtes l'homme le plus mesuré de cette table, je vous connais bien.
Mais il, d'abord, c'est vrai qu'il subit cette addiction depuis très longtemps, celle de la cocaïne. Et ça me donne l'occasion de parler de ce qui, pour moi, au-delà de ce qui a déjà été dit, ce qui sera sans doute dit, ce qui est dit déjà dans les médias, est le plus révélateur, c'est en réalité l'omerta absolue sur justement la cocaïne et l'ensemble de ces nouvelles pratiques de drogue. J'en parlais avec un ami qui est commandant des stupes et qui m'expliquait qu'effectivement, les fameuses soirées chemsex, donc c'est de cela qu'on parle pour Pierre Palmade, donc ce sont des orgies sexuelles pratiquées donc par une partie assez importante de la communauté homosexuelle, qui consiste donc à multiplier les partenaires sexuels sous différentes drogues et en mélangeant les drogues. Ça n'est pas du tout anecdotique. Ça fait partie aujourd'hui des nouvelles manières dont la drogue se diffuse à travers toute la population, parce que qu'on le veuille ou non, la population homosexuelle en grande partie est assez prescriptrice de nouvelles pratiques et entre autres de la consommation de drogue. Simplement par le fait qu'elle est admirée sous l'œil des projecteurs.
Oui, mais c'est ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle recouvre des champs très importants.
Il y a un grand non-dit donc sur cette pratique d'une part qui est très répandue, et par ailleurs sur un autre phénomène, c'est la consommation de cocaïne qui est, on ne l'imagine pas, qui est partout, en particulier dans les milieux politiques, médiatiques, financiers, culturels. Et ça, c'est le grand tabou actuel. Je pense qu'un jour, cela explosera, parce que ça touche si largement ces fractions de la société que ça, les conséquences vont se multiplier. Et pour moi, peut-être que cette affaire Pierre Palmade, au-delà de tous les détails abominables évoqués par Marc Hainaut, est peut-être le premier jalon d'une vraie préoccupation autour de ce phénomène de massification de la pratique de la cocaïne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des quantités considérables. N'oubliez pas, quand on voit immense saisie des douanes, plusieurs tonnes de cocaïne, les saisies de la douane ne sont qu'une mesure de l'étendue du trafic.
Oui.
Quand les saisies augmentent, ça n'est pas parce que les douaniers font mieux leur travail, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup plus de drogue qui arrive. Aujourd'hui, ça touche tout le pays, même les régions les plus reculées. C'est une drogue particulièrement catastrophique parce qu'elle pousse à une espèce d'hyperconsommation, d'hypersexualité. C'est la drogue vraiment typique de ce monde progressiste désincarné. Et j'espère que ce terrible drame sera un moyen peut-être de mettre en lumière les conséquences dramatiques que ce phénomène va avoir sur l'ensemble des populations, et en particulier des générations des 20-40 ans en gros.
Xavier Mans, vous vouliez réagir sur la drogue dans les milieux journalistiques et même politiques.
Oui.
Même de droite.
C'est vrai que j'espère également que ça sera l'occasion de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et puis d'arrêter de se voiler la face sur ces pratiques qu'on a banalisées. Quoi. Il y a même, c'était les mêmes, un sujet un peu de rigolade. Ouais, à Canal+, tout le monde savait que tout le monde tapait de la cocaïne, c'était intégré par exemple. Ils en parlaient tout à fait librement, comme si c'était une pratique festive sans conséquences. Et c'est un peu rentré dans les mœurs. Et ça touche en effet toutes les catégories sociales maintenant. C'est quelque chose qui est assez surprenant. C'était un peu la drogue de la jet set, enfin, des classes supérieures. C'est devenu vraiment une drogue de tout un chacun, malheureusement. Et donc, si au moins ce terrible drame a le mérite de mettre ce dossier sur la table, ça aura au moins cet intérêt, si je puis dire. Moi, je suis également d'accord sur le fait qu'il ne faut pas non plus participer à un lynchage particulier de Pierre Palmade, qui est en fait que le représentant et qui, d'une caste qui a ce genre de comportement. Il faut attendre en effet les résultats de l'enquête.
Non, bien sûr, nous respectons la présomption d'innocence.
Hurler excessivement avec les loups, même si ça, évidemment, ça semble assez sordide. Hein, et la fuite de ses compars, c'est quand même plutôt une indication négative sur la suite du procès. Par contre, je ne suis pas non plus pour être particulièrement indulgent avec lui, parce que j'entends beaucoup dans les médias, oui, le pauvre, il subissait une addiction. Mais ça veut dire quoi, subir une addiction? On subit une maladie. Quelqu'un qui a un cancer, il y est pour rien. Hein, ou pas grand chose. Là, il y a quand même à la base un acte de consommation d'une drogue ludique pour des pratiques. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, je veux pas déresponsabiliser la prise de drogue. C'est pas un truc qui vous tombe quand même par hasard sur le coin du nez, si je puis dire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas soigner, qu'il faut pas réinsérer les gens, etc. Mais c'est quand même, il ne faut pas déresponsabiliser le consommateur de drogue non plus. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'avoir une maladie qui vous tombe dessus.
François Devoyer.
À mon sens, l'addiction est une véritable maladie. Mais quand on a l'âge qu'a Pierre Palmade, c'est-à-dire 54 ans, il me semble, qu'on connaît ses limites, ses faiblesses et qu'on a cette addiction depuis suffisamment d'années, et ben, quand on a enfin, après une soirée, on prend un taxi, en fait. On a les moyens de prendre un taxi, on va pas prendre son véhicule.
Oui, mais c'est un peu ce point de vue.
Voilà, de ce point de vue, c'est ça. C'est ce que je me permets de dire déjà, c'est effectivement ce manque de responsabilité. Ça, de ce point de vue, c'est absolument indéfendable. Après, sur les addictions, je recommande d'ailleurs une série qui s'appelle Dopsyc sur le phénomène atroce de l'addiction aux opiacés antidouleurs aux États-Unis, qui font près de 100 000 morts par an. Pic de cette épidémie, 100 000 morts par an, hein. Je ne sais pas si on mesure, il y a hélas des addictions qui sont
Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est aussi, il y a un lien beaucoup avec des prescriptions qui tournent mal. Enfin, on vous donne des médicaments qui en fait vous rendent accro. Ce n'est pas la même chose que s'amuser à prendre de la cocaïne en fin de soirée pour se prendre pour le plus intelligent.
Sur le déclenchement, bien sûr, sur le phénomène addictif.
Oui, sur le phénomène addictif, bien sûr, comme même l'alcool peut être aussi une addiction terrible, etc. etc. Ça, il ne s'agit pas de le nier, mais je ne voudrais quand même pas qu'on déresponsabilise aussi trop les gens. C'est ce qu'on voit aussi notamment avec les salles de shoot où on parle que de la prise en charge des malades, etc.
Je suis tout à fait d'accord.
Etc. Faut aussi les responsabiliser dans leur et justement surtout des gens de ce milieu ont les moyens aussi de se faire soigner, ont les moyens de se faire recadrer, etc. Je dis pas que c'est facile, évidemment, hein. Et encore une fois, la conclusion c'est exactement la même, c'est en tout cas au moins qu'ils restent chez eux, quoi, hein. Qu'ils fassent leur truc, qu'ils restent chez eux, ils s'enferment et au moins ils ne nuisent pas, ils se détruisent autant qu'ils veulent et ils ne nuisent pas au moins à la communauté. C'est le moindre qu'on pourrait leur demander.
C'était un peu le sens de ma question à François Devoyer. Oui, la manière dont je l'ai posée, j'accablais un peu Pierre Palmade, mais en fait, c'était plus dire, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais le système médiatique, médiatico-politique, où, enfin, tous ces gens-là, ces journalistes, ces sachants, qui quand même vivent en vase clos. Voilà, s'il y a un malaise aussi autour de l'affaire Pierre Palmade, c'est que je pense que beaucoup sont en train de se rendre compte qu'ils auraient pu faire la même chose. Et en fait, là où j'ai un peu du mal, c'est que oui, Pierre Palmade disait qu'il subissait cette addiction. Alors, dans quelle mesure c'est une maladie vraiment subie? Enfin, là n'est pas la question, mais en fait, c'est est-il normal que ce soit un fait avéré dans un pays normalement l'état de droit qu'on aime bien nous vendre, que les décideurs politiques qui ont les moyens de leur politique se payent leur coke avec derrière leurs amusements, je suis désolé de le dire à l'antenne de Radio Courtoisie, mais sexuels, qui je pense dans le cas de Pierre Palmade avait l'air quand même plus ou moins tarifé. Enfin, on voit mal comment deux personnes de 30 ans, dont un marocain, donc parce que c'est ce qui sort de l'enquête à l'heure actuelle, et un français, soit arrivé juste pour s'amuser. Je pense qu'il y a quand même, enfin, il y aurait des choses à creuser là-dessus. Après, je veux pas rentrer dans le sordide, mais j'ai quand même l'impression que si l'affaire Palmade prend autant d'ampleur, alors oui, c'est le problème de la drogue en général en France, mais c'est aussi l'état de dépravation monumentale de nos élites. Et je pense que ça va interroger beaucoup les Français, au-delà de l'émotion que peut susciter le drame de la mort des passagers des blessures graves des passagers de la voiture.
Après, pas pour relativiser évidemment, mais pour essayer de donner une explication, Pierre Palmade, enfin, ce que je veux dire, c'est que si ça avait été une personnalité unanimement détestée par la population, je pense qu'il y aurait peut-être moins eu de débat. Le fait est que ça a touché un humoriste qui est globalement apprécié du grand public, qui a toujours eu une image plutôt sympathique en fait. C'est quelqu'un qui fait rire les gens. Voilà. Après, c'est donc je pense qu'il y a eu aussi un battage vis-à-vis de ça. Il y a eu aussi l'effet de couverture d'un milieu qui est à la fois où tout le monde était peut-être proche de lui par des liens amicaux, affectueux ou affectifs ou que sais-je, et surtout un milieu voilà qui s'est aussi senti morveux sur le sujet. Mais il y a un communiqué qui était très révélateur, c'est celui du procureur de Paris, qui a précisé dans son communiqué que Pierre Palmade sera jugé comme n'importe quel Français. Alors, on serait tenté de dire heureusement, mais on est aussi tenté de se dire, mais pour que le procureur de Paris se sente obligé de le préciser, c'est qu'effectivement, il y a un problème, c'est qu'effectivement, il y a... La question se posait, en fait, en réalité. La question se posait, d'une part, en raison du caractère médiatique de cette personne, mais d'autre part aussi, parce qu'il y avait eu, à un moment donné, des soupçons qui montaient, ou en tout cas, une caste qui a laissé entendre que... Pierre Palmade aurait peut-être droit à un traitement de faveur parce que cette caste a décidé de le protéger. Il a fallu que le procureur de Paris le précise. En fait, rien que le fait qu'il y ait besoin de le préciser, le fait qu'il y ait besoin de rappeler que Pierre Palmade est injusticiable comme un autre, cela démontre aussi, je trouve, l'état d'esprit général.
Jean-Yernis, vous voulez réagir ?
Oui, moi j'avais envie de reparler un peu de cocaïne. On a 1% des Français qui prennent de la cocaïne régulièrement. Donc on estime les consommateurs de cocaïne à 600 000 en France. Donc c'est un chiffre qui est énorme. Je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Parmi ces consommateurs, beaucoup de gens qui s'estiment avoir des vies très importantes, avec des vies très stressantes et qui s'estiment importants. Et là, on a un député des Hauts-de-Seine qui a été confondu sur sa consommation de cocaïne il y a quelques semaines par nos confrères de Mediapart. Et donc, ce député Renaissance des Hauts-de-Seine, je vais citer son nom, de toute façon, il a reconnu la consommation sur son compte Twitter, Emmanuel Pellerin, et donc il reconnaît cette consommation et il estime se mettre en retrait de son parti politique et de son groupe politique à l'Assemblée nationale. Donc, belle décision. Et quand on sait que dans le privé, ce député est docteur en droit de la santé. Donc il est avocat sur le droit de la santé. Donc c'est un peu ironique de voir que cette personne se fait pincer. Mais pourquoi je parle de cette personne ? Je ne fais pas de lien entre lui et Pierre Palmade, mais entre lui et la consommation de drogue qui s'étend à des niveaux stratosphériques au niveau de nos élites, mais pas seulement. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que de la cocaïne... on en voit dans tous les milieux, donc que ce soit le milieu de la gastronomie, le milieu de la musique, le milieu politique, et également dans des milieux urbains. Dans les jeunes gens, dans les soirées parisiennes, où on buvait un coup de trop il y a quelques années, maintenant on prend de la coke. Et c'est quelque chose qui est courant, accepté, admis, même dans les milieux politiques, même qui peuvent être les nôtres. Droite, extrême droite compris. Et moi, je ne crois pas du tout à une prise de conscience par rapport à... Au contraire, il y a un phénomène de repli, un phénomène de couverture. Oui, mais il était... Pierre Palmade souffrait de son addiction, ce dont je veux bien croire d'ailleurs. Mais en fait, on est en train de se protéger entre nous. Il y a quand même toute une caste qui se protège. Quand on dénonce, et à juste titre, la colline du crack et les consommateurs de crack, on n'a pas du tout cette même mise à l'index des consommateurs de cocaïne, parce que oui, effectivement, c'est plus propre, ils sont propres sur soi et tout, mais au bout du bout, on est sur les mêmes problématiques selon moi.
Xavier Aymon.
Pour revenir un peu sur ce que tu disais, Adrien, sur le fait, est-ce que c'est normal ? En effet, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal d'inviter dans des émissions de télévision, de flatter, de donner des récompenses à quelqu'un qui, ouvertement, depuis des années, explique qu'il est un drogué compulsif, quasiment. Comment veut-on ne pas lutter contre la banalisation de cette drogue si elle est intégrée, aussi bien intégrée au niveau de la représentation sociale et de la représentation médiatique?
C'est ça la question que je pose, c'est pas une mise en cause de Pierre Palmade, c'est juste du rapport que, voilà, c'est la banalisation dans les médias de la drogue, en fait tout le monde est au courant que certains journalistes, certains hommes politiques...
Ça reste un délit de la consommation de drogue, donc comment quelqu'un peut penser qu'il commet un délit en allant acheter son gramme de cocaïne pour aller à sa soirée étudiante, s'il voit en permanence à la télévision, dans les journaux, des gens qui revendiquent tout à fait tranquillement leur consommation de ce produit. Donc, si on veut lutter en effet contre sa banalisation, il faut peut-être aussi changer les habitudes, notamment
Combini, le média en ligne Combini avait lancé un format de vidéo qui s'appelle l'interview Sandwich, et où chaque pardon pour le mot anglais, mais si vous en avez un en français, je suis preneur. Et en fait, dans cette interview Sandwich,
entre deux tranches.
Allez, casse-croûte. Allez,
très on français, va dire Sandwich.
Et chaque personnalité a été invitée à dire à quand date votre premier casse-croûte, votre casse-croûte, vous le préférez tout seul ou avec des amis. Évidemment, il parlait de cannabis, il parlait de fumer un joint, c'était complètement acquis et c'était complètement connu par tout le monde, mais ils avaient contourné la loi en parlant de casse-croûte pour et en fait, il y a toujours ce côté où déjà paraître dans le vent et paraître rebelle en fumant un joint, déjà c'est d'un ringard absolument terrible, puisque malheureusement il y a un jeune sur quatre, un jeune sur trois, je sais plus, a déjà fumé un joint avant l'âge de 18 ans. Et il y a ce côté permissif, ce côté cool, ce côté dans le vent. Soyez comme McFly et Carlito, soyez comme Big Flo et Oli, soyez comme tous ces modèles qu'on vend à la jeunesse, et fumez des joints parce qu'on l'a tous fait, que c'est pas si grave, que c'est sympa, que c'est festif. Et finalement, c'est ça en fait les messages qu'on envoie aussi, et que ces gens qui se complaisent dans ces interviews sont suivis par des centaines de milliers de jeunes, pour beaucoup influençables.
Je voyais François de Voyer et Jean-Yves, oui, disons d'abord François.
Ah, pardon. Juste un fait intéressant. En 2021, il y avait eu des tests au Parlement britannique. Sur les 12 toilettes testées, 11 se révélaient positives à la cocaïne, y compris tout proche du cabinet du Premier ministre. Donc c'est dire à quel point c'est courant. Je distinguerais bien à nouveau l'aspect légal, donc effectivement, comment est-ce qu'on peut revendiquer cette consommation, de l'aspect addiction. Puisque là, dans ce cas, il faudrait interdire d'antenne Renault ou Gérard Depardieu ou pas mal de...
Renault, pour son bien, il vaudrait peut-être mieux, mais ça c'est autre chose.
Mais c'est ça, c'est très délicat. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on lutte. C'est-à-dire que la guerre contre le cannabis, elle est déjà perdue depuis très longtemps. La guerre contre la cocaïne, elle est largement perdue également. Là, aujourd'hui, on a des nouvelles drogues de synthèse qui font leur apparition.
Oui, d'ailleurs, je crois que Pierre Palmade, d'après ce que l'enquête révèle, était sous emprise de cocaïne et de différentes drogues.
Bien sûr, et d'autres stupéfiants. Je crois que c'était des... Je ne sais plus d'ailleurs de quoi il s'agissait. Je ne sais plus si c'était des amphétamines ou... Mais il y a donc tout un... Enfin, la question, comment on arrête de perdre ce combat ? On a vu qu'effectivement, l'application stricte de la loi, en tout cas, qui visant le consommateur, n'a pas été très efficace. Je me pose la question parce que j'ai l'impression que depuis ma prime jeunesse, on recule sur tous ces aspects.
Jean-Anis.
On va faire une très bonne transition. C'est très bien que j'avais parlé après François de Voyer, parce que justement, on recule et l'État a admis ce recul. C'est-à-dire que dorénavant, la consommation de cannabis comme de cocaïne, c'est une amende. C'est-à-dire que quand vous êtes pincé, il n'y a plus de procès, il n'y a plus d'enquête. On vous saisit votre drogue et on vous met une amende forfaitaire de 200 euros. C'est-à-dire que les plus riches paieront l'amende, et les autres, après, il peut y avoir un procès, mais hypothétique et qui a rarement lieu. Et cette amende, c'est depuis 2020, hein, cette amende forfaitaire. Avant, il y avait quand même un procès verbal, il y avait au moins un aspect. On reconnaît que la drogue, et c'est une vérité, c'est-à-dire que l'interdiction de la drogue n'a pas fonctionné, et la drogue est partout. Je veux dire, dans toutes les rues, on parlait de Paris tout à l'heure, je me promène régulièrement dans Paris, on sent partout l'odeur du cannabis. Et bon, les gens ne prennent pas encore de cocaïne.
On dit du CBD.
Dans les rues. Mais, je veux dire, c'est. Il y a un vrai échec à ce niveau-là. Il y a un vrai échec, mais un échec qui est reconnu. Et il n'y a pas une véritable volonté de lutter contre.
Oui, mais je pense que le problème principal, effectivement, c'est le problème de la drogue. Ça détruit d'abord les consommateurs, et puis après, il y a les drames qui arrivent et qui peuvent. Et
ça nourrit la criminalité, c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est quand certaines personnes disent oui, mais. Fumer un joint, c'est pas plus grave que boire un verre ou deux verres. Ça, on donne pas son argent au même circuit. Hein. Quand on donne son argent à un vigneron du Bordelais ou quand on nourrit un cartel colombien qui fait de la prostitution, qui élimine des familles entières, etc. Ça, il faut le garder. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Et il y a cet aspect qui est en ligne de compte. Quand je vois des gens qui trouvent ça tout à fait normal, voire cool. Et qui ont certaines idées, même politiques, parfois conservatrices, etc., qui se rendent compte qu'ils nourrissent, et ils nourrissent les filières d'immigration, ils nourrissent
la
Seine-Saint-Denis, etc. Donc voilà, ça, il faut aussi le rappeler.
Mais pas sur des gens qui
c'est important.
Qui fument du pavot chez eux, qu'ils ont fait pousser avec tous les.
Ce qui serait à la limite moins grave, même si légalement, c'est plus embêtant. Mais...
Non, mais c'est-à-dire qu'on est sur effectivement des trafics, des filières, et tout est lié. En fait, tout est lié. On parlait tout à l'heure de l'état de Paris, c'est lié. Et actuellement, en fait, et justement, d'ailleurs, pendant les premières semaines, les premiers jours de confinement, ça a asséché ces filières de drogue et on nous a dit c'est problématique parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de revenus parce que tous leurs revenus sont liés à la drogue. Donc, en fait, on a quand même une grosse hypocrisie. À l'époque, Jean-Yves Le Gallou le répétait et même il l'a déjà dit à cette antenne que le département de France où on avait le plus de voitures de luxe immatriculées était la Seine-Saint-Denis qui est le département le plus pauvre de France. Donc, on est quand même sur des choses où la drogue est un trafic et on a quand même eu de grosses accusations où on n'a jamais eu vraiment de réponse. Quand il y avait eu cette fameuse affaire des Macron Leaks, pardonnez-moi pour l'anglicisme, donc qui était soi-disant des documents qui auraient été sortis des boîtes de courriel de la campagne d'En Marche d'Emmanuel Macron, où... ça n'a jamais été confirmé, affirmé, donc on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais où le candidat de l'époque, qui est désormais notre président de la République, se faisait livrer de la cocaïne. On avait des gens dans le comité de campagne qui étaient chargés d'approvisionner en cocaïne le futur président de la République. On n'a jamais eu de démenti ferme là-dessus, il y a un flou. Donc moi je suis pas en train de professer des accusations là-dessus, mais qu'on ait même pas eu de démenti ferme là-dessus, ça prouve tout le...
Ils entretiennent une ambiguïté sur
ça prouve le malaise
qu'il y a autour de ces questions-là. Oui.
Et la permissivité et tout ça.
Il me semble que le type de drogue n'était pas précisé dans les Macron Leaks, mais si mon souvenir est bon, à vérifier. Mais le trafic de drogue, c'est le capitalisme à l'état sauvage. C'est des enjeux absolument colossaux. Ça a été évoqué très bien autour de la table, mais la question, encore une fois, comment fait-on face à ces enjeux-là? La réalité, c'est qu'on ne peut plus supprimer le trafic de drogue parce que c'est ça qui nourrit les banlieues aujourd'hui, qui exploserait sans si on coupait le trafic. Ça, c'est des réalités. Il y a eu quelques tests faits
c'est une garantie de paix sociale.
Bien sûr.
Je vous laisse poursuivre.
La BAC du 19e arrondissement avait fait un test à une époque, il y a une quinzaine d'années, en bloquant totalement le trafic de drogue dans un quartier précis où il était extrêmement répandu. Alors ça a très bien fonctionné sur le plan de la drogue. Il y a eu immédiatement une explosion, mais littéralement phénoménale, des agressions violentes, des vols de tout type, non seulement dans le quartier immédiat, mais dans tous les environs. La question, c'est qu'en fait, on est esclave de ce phénomène. Et là où c'est un peu inquiétant, est-ce que finalement aussi il y a une volonté de lutter dans le sens... Qu'est-ce qu'il y a plus facile à manœuvrer qu'une population droguée, qu'une population qui n'a pas toute sa lucidité? Finalement, est-ce que c'est pas beaucoup plus simple de faire voter des gens qui fument un pétard par jour ou qui prennent une trace par week-end que des gens assez lucides et éveillés, quoi.
Mais c'est pour cela d'ailleurs qu'on a fait des efforts au sens législatif pour pénaliser les clients, pour davantage faire la traque des clients, puisque attraper un type qui va acheter son joint de la semaine et l'interpeller, ça permet de communiquer sur une hypothétique lutte contre la drogue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour réellement déterminer si une politique de lutte contre la drogue est efficace, il faut se renseigner sur combien coûte le gramme de cocaïne, le joint, etc. De l'avis de tous les experts, criminologues et spécialistes de la sécurité intérieure, le prix de la drogue en France n'a jamais été aussi bas. À partir du moment où vous le priez bas, c'est que vous avez trop d'offres par rapport à la demande, et donc cela veut dire que la politique de l'État sur ce sujet est soit inexistante, soit complètement inefficace. Vous avez un dernier point en réalité sur comment est-ce qu'un maire représentant de la République peut aujourd'hui faire régner un semblant d'ordre dans des villes qu'on connaît tous, en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres départements adjacents. Il a deux possibilités. Soit il met en place, soit il entre littéralement en guerre, mais au sens littéral du terme, avec ces quartiers-là, et il mène une politique très ferme avec des moyens policiers absolument colossaux, mais je n'ai pas d'exemple en tête de maire qui ferait ça. Alors, le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, par exemple, est connu pour avoir une politique assez ferme là-dessus, et en tout cas une politique intelligente. Et de fait, Montfermeil, qui avait une des pires cités de France il y a quelques années, est une ville à peu près, où en tout cas l'insécurité est circoncise dans certains points très précis. Et le dernier point, c'est donc pour faire régner la sécurité, vous avez deux options, pardon pour la trivialité, soit vous passez par les barbus, soit vous passez par les trafiquants de drogue. Ce sont les deux figures d'autorité dans les quartiers, ce sont les deux figures d'autorité qui permettent de faire connaître à ces quartiers une relative paix sociale. Donc soit vous favorisez la guerre de la drogue, soit vous favorisez la montée de l'islamisme radical.
D'ailleurs, un sujet.
Les deux milieux se mélangent d'ailleurs extrêmement facilement.
Peut-être que nos auditeurs ont pu lire cette semaine dans Le Parisien une très bonne info assez drôle. C'est-à-dire que les dealers, donc les vendeurs de drogue, édictent leur règlement de bonne conduite aux riverains, oui. En disant c'est pas sponsorisé par Becherel, hein, parce que là, on a un nombre de fautes sur deux petites feuilles A4 où on explique. Ici, on fait du commerce de drogue. Pour que ça se passe bien, ne nous embêtez pas. Nous ne vous embêterons pas non plus. On est là pour faire du commerce. S'il y a des problèmes, venez nous parler. On les réglera.
Oui, on s'engage à ne pas faire de bruit.
On s'engage à ce que ça se passe bien pour vous. Et si ça se passe bien pour nous, si vous avez besoin d'aide pour monter les courses, on vous les montrera.
Si vous avez besoin d'aide pour des petits travaux, n'hésitez pas. Enfin, vraiment, c'était... Ouais.
Et donc, on est sur un partenariat de tranquillité. Et d'ailleurs...
La paix sociale.
Oui, on est sur une paix sociale. Et les riverains sont tentés d'accepter ça parce que les riverains sont totalement...
Ils n'ont pas d'alternative, surtout.
Ils n'ont pas d'alternative et ils sont pris en étau. C'est terrible. Pour les gens qui ont vu le film Back North, dans le film, à un moment, on voit ce phénomène de nourrice ou donc des gens qui cachent la drogue chez eux, parfois volontairement en ayant un peu d'argent et parfois sous la menace des dealers. Donc il y a toujours une ambiguïté là-dessus. Et c'est toujours très compliqué et ces gens sont pris en étau, ils sont totalement abandonnés. On parle de territoires perdus de la République. Mais en fait, oui, ces territoires sont perdus, mais parce qu'on les laisse perdre. Parce que comme le disaient très bien François, Marc et Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire que On ne veut pas mener cette guerre, parce que si on mène cette guerre, les conséquences sont terribles. Donc on préfère mettre un peu sous le tapis, criminaliser le consommateur. C'est très bien, parce qu'en plus, c'est des affaires résolues très facilement. Comme ça, Gérald Darmanin, après, va dire...
Ça fait des croix sur les rapports de police.
Gérald Darmanin peut nous dire qu'il a des taux d'élucidation exceptionnels. Actuellement, on n'a jamais autant arrêté de gens qui fument des pétards ou qui prennent de la cocaïne. Ces gens-là prennent une amende de 200 euros. D'ailleurs, est-ce qu'elle est au final échue?
Je ne pense pas qu'on aille récupérer les amendes dans certains quartiers. Pas plus que pour le train ou pour le pass Navigo non présenté. Non.
Il reste deux minutes. Je pense qu'on va terminer sur ce sujet. Nous n'avons pas pu aborder les autres sujets d'actualité, mais nous avons la chance de faire une émission dans un mois, donc nous pourrons revenir sur d'autres choses peut-être un peu plus joyeuses, parce que entre l'enlaidissement, la tiers-mondisation de Paris et le trafic de drogue qui se répand partout en France avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Nous ne voulons pas démoraliser complètement les auditeurs de Radio Courtoisie. Peut-être un dernier message d'espoir, Marc Hainaut.
Mais qu'aucune situation n'est frappée du coin de la fatalité. Et que c'est la prise de conscience de ces problématiques, c'est déjà d'abord nommer le mal et ensuite le combattre. Déjà ici nous le nommons, alors gageons qu'il sera un jour combattu.
Merci beaucoup Marc Hainaut. Et merci à tous les auditeurs de Radio Courtoisie de nous avoir écoutés. Merci à Xavier Aimant, Jean Hernis, François Devoyer et Marc Hainaut pour leur aimable participation à cette émission. Je souhaite une bonne semaine aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Benjamin Blanchard et par Adrien Renoir, émission préenregistrée les 17 et 18 février 2023, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 18 février de 18h à 21h et réalisée par Aline, par Jean-Édouard et par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.